Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Se rencontrer, se parler. Appel sur l'actualité est à Dakar. Juan Gomez.
Merci, bonjour à tous, merci de nous accueillir à l'Université des Savoir-Faire, à la Cité du Golf. Merci à tous d'être venus nombreux sur ce terrain de basket que nous avons réquisitionné pour l'enregistrement de cette émission. Le Sénégal, vous le savez, s'achemine vers l'élection présidentielle. Vous me direz que le scrutin n'aura lieu que dans 10 mois, mais cette échéance électorale est déjà dans tous les esprits. D'ailleurs, ces dernières semaines, le climat politique s'est considérablement tendu avec la révision du code électoral. L'opposition est vent debout, la majorité au contraire se dit très satisfaite pour la démocratie et entend bien aller jusqu'au bout. On aura l'occasion évidemment d'en parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en février prochain, les Sénégalais se prononceront sur le bilan du président sortant et candidat non encore déclaré à sa propre succession. Ce sera l'occasion, en tout cas ce matin, de dresser un état des lieux de l'action du président Macky Sall, lui qui, rappelez-vous, fut plébiscité en 2012. D'ailleurs, l'ampleur de sa victoire, 65%, était à l'image de l'espoir qu'il incarnait après les 12 ans de présidence Wade. À l'époque, Macky Sall avait multiplié les promesses. Il s'était engagé à lutter contre la cherté de la vie, le chômage des jeunes, les délestages. Il avait promis de réduire le train de vie de l'État, d'instaurer la bonne gouvernance économique et la bonne gouvernance politique. 6 ans après, le président a-t-il tenu ses promesses? On en parle ensemble, évidemment, avec le public ici à Dakar et mes invités que je vous demande d'accueillir. Ella Djamidou Kassé, bonjour.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, ministre. Merci. Conseiller en charge de la communication de la présidence de la République. À vos côtés, Babacar Gueye, bonjour.
Bonjour Juan.
Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole du PDS, le Parti démocratique sénégalais, de l'ex-président Abdoulaye Wade. Avant de donner le micro aux auditeurs, un mot sur le climat sociopolitique à 10 mois de cette élection présidentielle. Je le disais tout à l'heure, le climat s'est un peu tendu ces dernières semaines. Qu'en pensez-vous, Babacar Gueye?
Oui, Juan, l'opinion nationale et internationale constate effectivement que la situation est délétère et c'est le fait du président Macky Sall qui a tendance à changer toujours les règles du jeu en cours. Et je pense que le Sénégal avait donné l'image d'un pays stable dont le processus démocratique en cours était acceptable. Si on en arrive à une situation pareille comme on l'a vécu en 2011 et début 2012, qui a précédé l'élection présidentielle après laquelle le président Abdoulaye Wade a été défait, je pense que nous avons fait un pas en arrière si nous n'avons pas fait du surplace. Nous pensions que, avec ce qui s'est passé pendant cette période, qui a été une période trouble, l'arrivée du président Macky Sall, élu avec 65% des suffrages, devait nous épargner de retomber dans les mêmes travers. C'est pourquoi j'estime qu'il y a un effort à faire d'une et d'autre part pour que le Sénégal retrouve sa stabilité.
On va en parler évidemment durant près d'une heure sur l'antenne de RFI. Ella Djamidou Kassé, vous partagez ce constat dressé à l'instant par Babacar Gueye?
À l'évidence, je ne peux pas partager le constat fait par mon ami Babacar, pour au moins 2 raisons. Je rappelle simplement que nous devons, en tant que Sénégalais, avoir la mémoire vive. De 2000 à 2012, l'ancien régime a systématiquement violé toutes les règles minimales du jeu démocratique, jusqu'à dissoudre des institutions parce que il voulait se séparer de personne. En 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Wade a introduit un projet de loi à l'Assemblée nationale pour faire élire le président de la République dès le premier tour avec 25%. Et c'est pourquoi le peuple sénégalais s'était dressé comme un seul homme le 23 juin pour faire échouer ce projet. Aujourd'hui, depuis 2012, nous sommes en train de conduire des réformes consolidantes de la démocratie et par rapport au climat actuel, c'est vrai qu'il y a une tension entre l'opposition et le pouvoir, mais de façon globale, le front social s'est calmé. Nous pensons que l'opposition va revenir à de meilleurs sentiments, s'asseoir autour de la table, ce qu'elle a toujours refusé, pour dialoguer et trouver des solutions consensuelles.
Le front social s'est calmé après 4 mois notamment de grève dans le secteur de l'éducation. On va voir ce qu'en pense le public. Bonjour Pape.
Bonjour Juan.
Bienvenue, merci de lancer le débat ce matin. On vous écoute, vous aviez justement envie de parler de la bonne gouvernance.
Oui Juan, merci d'abord RFI de nous avoir offert ce beau plateau. Le président Macky Sall, c'est vrai, a suscité l'espoir au niveau des Sénégalais. Mais ce qu'il faut, après 6 ans d'exercice du pouvoir, ce qu'il faut relever, c'est que c'est une déception, tout simplement.
Pourquoi ?
Je pense que le procès Khalifa Sall, aujourd'hui, est là pour nous servir, tout simplement, d'exemple.
Moi, je m'attendais... Khalifa Sall, député maire de Dakar, condamné récemment à 5 ans de prison.
À 5 ans de prison. Oui. Et je rappelle que c'est parti hein, d'un rapport, tout simplement, de l'IGE, si je m'avise. Hein.
L'inspection générale.
L'inspection générale d'État. Mmh. Que le président de la République a transmis automatiquement ce rapport-là. Et par la suite, on a assisté à un long processus hein, qui a fini par le condamner.
Et donc, pour aller un peu plus vite dans la réflexion, pour vous, cette condamnation, elle n'est que purement politique.
Purement politique, hein, c'est clair.
Mais pourquoi
il ne s'agit même pas d'être observateur, hein, il s'agit juste de suivre les faits.
Pourquoi?
Parce que tout simplement, Khalifa Sall, il a trouvé un système que jusqu'ici, tout le monde utilisait. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de souci. Le problème, il a démarré justement à partir d'une offre politique qu'on lui a proposée et qu'il aurait refusée. La machine judiciaire s'est emballée aussi automatiquement. On a mis en branle la machine judiciaire.
Pour faire court. Hein.
Et à partir de ce moment-là, on a assisté non pas à un procès, mais à une élimination tout simplement d'un potentiel candidat.
À la prochaine élection présidentielle. Passez le micro à votre voisin. Bonjour Barra.
Bonjour Juan.
Alors, comment réagissez-vous au propos de Pape à l'instant Pape. Vous nous disiez en préparant l'émission que tout ça, toutes ces condamnations, ce sont des épiphénomènes.
Oui, je veux dire que moi, ce qui me concerne est que aujourd'hui, vraiment, nous sommes satisfaits à ce que je n'appelle même pas un bilan, mais à des miracles. Vraiment, moi, je ne m'attendais pas à toutes ces réalisations du président de la République Macky Sall.
D'accord, mais concernant la bonne gouvernance politique. Votre voisin disait, le procès Khalifa Sall, et on ne va pas refaire le procès, est un procès politique. Vous, en tant que citoyen, visiblement satisfait de l'action du président, vous en pensez quoi?
Voilà, ça c'est les questions de démocratie. Mais je crois que la vraie démocratie, c'est l'accès des populations aux services sociaux de base, à mon avis. Tous ces villageois qui sont aujourd'hui, qui n'avaient pas accès à l'eau et qui ont accès à l'eau, tous ces villageois qui n'avaient pas accès à l'électricité et qui ont accès à l'électricité à travers le programme d'urgence de développement communautaire, oui. Je crois que c'est une forme de démocratie.
Alors,
et dans nos pays sahéliens, je crois qu'on n'a pas de temps à perdre sur des questions politiques ou judiciaires. Nous devons développer nos pays et il n'y a pas
alors,
de temps à perdre.
Donnons la parole, et c'est ça la démocratie, à nos invités. Babacar Gueye, on n'a pas de temps à perdre, dit cet auditeur, avec ces histoires politico-judiciaires. Vous en pensez quoi, vous?
Ben, c'est manquer de respect aux Sénégalais que de penser qu'il est possible de procéder à une émergence économique si on ne règle pas des agrégats minimaux. Les premiers agrégats qu'il faut régler, c'est la gouvernance politique et démocratique. Et depuis l'avènement du président Macky Sall, on sent un repli et cela est constaté, comme l'auditeur qui vient de prendre la parole l'a dit, il y a une instrumentalisation de la justice alors que le président Macky Sall avait juré avant son élection qu'il allait tout faire pour libérer les magistrats et réorganiser le Conseil supérieur de la magistrature, réorganiser la Cour suprême et lutter contre les déprédateurs de notre économie. Il s'y essayait avec son opposition, il protège ses amis et tout à l'heure, si vous réclamez, vous demandez aux Sénégalais exactement est-ce qu'il s'est occupé du cas du coude, est-ce qu'il s'est occupé du cas du porc, est-ce qu'il s'est occupé de la malgouvernance avec son propre frère, est-ce qu'il s'est occupé des questions qui concernent ses partisans, ils vous répondront non. Or, le président Macky Sall disait, avant son élection, que les infrastructures, les réalisations ne se mangent pas. Le Sénégal a besoin d'avoir une approche morale du gouvernement, de la gouvernance.
Oui.
et nous sommes déçus, et tout le monde le constate, alors, qu'il n'a pas respecté ses engagements par rapport à Yone Yokote principalement.
Alors, Ella Djamidou Kassé vous répond évidemment. Comment réagit-on à la présidence de la République lorsque l'opposition et une partie de l'opinion publique sénégalaise a le sentiment, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et on ne va pas focaliser sur lui, mais que la condamnation de Khalifa Sall est une condamnation politique et que c'était tout pour bloquer, lui bloquer cette possibilité de briguer la magistrature suprême l'année prochaine?
Voilà, d'abord je voulais faire une précision. Tous les dossiers, et je suis formel, relevés par les corps de contrôle de l'État, et je suis formel, sont transmis à la justice. Tous les dossiers sans exception. Un. De deux, la condamnation de monsieur le maire de Dakar découle de faits précis. Maintenant, on peut avoir l'interprétation qu'on veut. Monsieur vient de dire que monsieur Sall a utilisé un procédé que ses prédécesseurs utilisaient. Il y a eu de fausses factures, oui ou non, c'est établi et M. Sall l'a reconnu. Alors, de deux choses l'une, ou bien on dit que M. Sall est de l'opposition, donc il ne doit pas répondre devant la justice, ou on dit que M. Sall est un citoyen comme El Hadj Kassé, comme un autre, il doit répondre de ses faits et actes devant la justice. Un point, un trait. C'est aussi simple. Maintenant, le débat sur les dessous du dossier Khalifa Sall est un débat qu'on appelle délibératif. Vous avez votre point de vue, que c'est une délibération politique. Moi, je reste dans mon point de vue que c'est une délibération tout à fait de justice, donc qui est liée à des faits précis.
La justice n'a fait que son travail,
la
si je vous en crois.
La justice n'a fait que son
travail. On avance dans les thématiques. On dresse ce matin le bilan de l'action du président Macky Sall ces 6 dernières années. Bonjour Amadou.
Bonjour à vous.
Étudiant en deuxième année en droit des affaires, et vous souhaitez interpeller nos invités sur cette loi qui fait polémique depuis plusieurs semaines ici à Dakar et au Sénégal, c'est la loi sur les parrainages.
Mon point de vue est celui-ci. Aujourd'hui, une loi qui réduit les candidatures qui sont soit fantaisistes ou ethnicistes est une très bonne loi sur le plan théorique. Mais dès lors qu'elle doit impliquer ne serait-ce qu'une instabilité politique ou une instabilité sociale, là on devrait voir la manière dont elle sera votée. Je me permettrai même de dire que voter une loi qui implique toute une nation sur juste la loi de la majorité de l'Assemblée nationale et, devrait être changée.
Vous auriez souhaité, en tant que citoyen et donc majeur, avec le droit de vote, être consulté dans le cadre d'un référendum, par exemple, pour modifier cette loi?
Être consulté, ce qui me permettrait d'être concerné parce que cette même loi me permettra aujourd'hui d'aller choisir mon candidat. Alors pourquoi on ne me pose pas la question de savoir est-ce que je veux que cette loi soit?
Alors justement, je rappelle en deux mots quand même que désormais les candidats à la magistrature suprême doivent réunir le parrainage d'au moins 52 000 citoyens inscrits sur les listes électorales. Je le disais tout à l'heure, l'opposition est vent debout. Vous dénoncez dans l'opposition un recul de la démocratie. Qu'en pensez-vous justement, vous, à la présidence de la République, quand on dit que la démocratie sénégalaise recule notamment à cause de cette loi?
Non, mais je pense que la loi sur le parrainage, en fait, découle simplement de la nécessité de rationaliser. En 2017, aux législatives, il y a eu 47 listes. Et sur ces 47 listes, il y a 7 listes qui ont atteint le seuil de 1%. Mais on s'est dit, à ce rythme, non seulement par rapport à la visibilité et à la lisibilité des offres politiques, donc ce que proposent les candidats, mais également par rapport aux finances publiques, ça risque de créer énormément de problèmes.
Donc, si j'entends bien, monsieur le ministre, trop de candidats nuiraient à la démocratie.
Mais absolument. Est-ce que quelqu'un peut me dire, ici, dans cette salle, ce qu'il a retenu des discours des candidats à l'élection législative de 2017?
Il y en avait
personne.
Il y avait 47 listes.
Il y avait 47 listes. Il n'y en a pas. Et on s'est dit, il vaut mieux prévoir. Donc, il faut rationaliser pour la démocratie sénégalaise. Il n'y a aucun recul.
Monsieur le ministre.
En tout cas, de 2012 à aujourd'hui.
L'opposition réagit. Baba Kargueil.
Oui, c'est constant que le pouvoir de Macky Sall cherche, à travers cette loi sur le parrainage, à envoyer un cheval de Troie dans le jeu démocratique. Qu'est-ce que j'appelle cheval de Troie? On est en train de se focaliser sur le principe du parrainage, qui me semble être aujourd'hui un danger pour la démocratie. Pourquoi? Ce qui est gênant, en réalité, c'est pourquoi on veut restreindre le jeu démocratique en empêchant à ceux qui sont porteurs de projets politiques structurants, même s'ils sont sûrs peut-être de ne pas pouvoir atteindre 5% des suffrages, ils vont partager avec les Sénégalais leur vision. Ils vont critiquer la gouvernance actuelle. Et de ce point de vue, ils aideront les Sénégalais à faire le choix qu'il faut.
Mais Babacar Gueye, vous allez poursuivre dans un instant. On ose espérer que tout candidat crédible qui aspire à diriger un pays comme le Sénégal puisse au moins recueillir 52 000 signatures à travers le pays.
Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que les personnes qui seront les parrains de ces candidats, ils vont trahir le secret du vote parce que simplement on saura... En réalité, dans un pays où les gens dépendent de la corruption des hommes politiques, qu'est-ce qui va se passer à l'élection présidentielle si Tartampion, qui avait parrainé Sonko, vote pour Sonko ou vote pour Macky Sall? Les Sénégalais n'en parlent pas assez parce qu'ils ne savent pas que le parrainage en soi n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est changer les règles du jeu à quelques encablures de l'élection présidentielle.
Et cela
est un recul démocratique. Alors, le Sénégal n'a jamais vécu.
Voilà qui est dit. On va parler croissance, on va parler rapidement d'économie avec deux auditeurs. Bonjour Omar.
Bonjour Juan.
Bienvenue, on vous écoute.
Moi, je voudrais intervenir par rapport à l'une des plus grandes réussites du président Macky Sall, c'est-à-dire l'économie. En 2011, il faut le rappeler, l'économie sénégalaise était en très mauvais état, avec une croissance à 1,7% et un déficit budgétaire à plus de 6%. Et de 2012 à 2016, il faut rappeler que le Sénégal a enregistré un taux de croissance de plus de 7%, l'un des meilleurs taux d'Afrique. Et le Sénégal n'a jamais eu à enregistrer ce taux.
Et vous avez l'impression, vous, Omar, de vivre mieux aujourd'hui qu'en 2012?
Effectivement, parce qu'il y a eu réduction sur l'impôt sur les revenus, il y a eu baisse sur les loyers et tant d'autres mesures qui ont permis aux Sénégalais de relever son pouvoir d'achat.
Alors, votre voisin, bonjour Souleymane.
Bonjour.
Vous dites exactement le contraire. Vous dites vous ne vivez pas mieux aujourd'hui que sous Abdoulaye Wade.
Je dis totalement le contraire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est brandi, c'est un taux de croissance à 6 ou 7%, disons. Mais ce qu'on ne dit pas aux Sénégalais, c'est que cette croissance-là ne se mange pas au Sénégal. Parce que ce qui tire cette croissance-là, c'est... Ce qui tire cette croissance-là, c'est le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire est essentiellement composé des services et des banques qui aujourd'hui sont constitués de firmes multinationales. Donc c'est une croissance qui est totalement tournée vers l'extérieur. Et au-delà, dans le quotidien des Sénégalais, comme on dit, par rapport aux réformes qui ont été faites, très souvent ce sont des réformes conjoncturelles qui permettent de résoudre des points ponctuels, mais qui révèlent leurs limites. Par rapport à tous les projets qui ont été initiés, c'est la même chose.
Oui. Aujourd'hui, on parle par exemple consommation et vie quotidienne. Le président Macky Sall s'était engagé à ce que les prix des produits de première nécessité n'augmentent pas.
Oui, mais...
C'est le cas ou pas, 6 ans après?
Le problème, c'est
non,
pas...
Non, mais c'est le cas, oui ou non?
Oui, par rapport
oui
à ça...
Oui ou non?
Effectivement,
bon,
il y a une stabilisation...
Ça veut dire que le panier de la ménagère...
Il y a une stabilisation des prix, oui. Mais il faut augmenter le pouvoir d'achat. C'est pas un problème de prix, mais c'est un problème de pouvoir d'achat.
Alors, nos invités vous répondent. Allez, peut-être, qui veut commencer? Babacar Gueye ou Monsieur le Ministre? Babacar Gueye.
Je ne me focalise pas trop sur le concept de 7-6% de la croissance. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est comment ils le vivent. Quand on vous dit qu'il fait 45 degrés, quand il fait 32 degrés, c'est le ressenti qui est important. Or, les Sénégalais ne ressentent pas que ce pays est en train de progresser du point de vue de la richesse. Où il y a richesse, ça enrichit des entreprises étrangères qui nous viennent de l'Inde, qui nous viennent de la France, qui nous viennent de Chine, et c'est sur la base de contrats qui met à côté toutes les entreprises nationales. Donc, les Sénégalais eux-mêmes ne participent pas à la formation de cette croissance.
Monsieur le ministre El Hadj Amidou Kassé, la croissance ne profiterait qu'aux investisseurs étrangers?
On nous fait une très mauvaise querelle. Et je rappelle que l'ensemble du projet de Diagne est exécuté à près de 80% par des entreprises nationales. C'est vérifiable, ce n'est pas des chiffres. Tellium, c'est une entreprise nationale ou non? Jetran, c'est une entreprise sénégalaise ou non? CSE, c'est une entreprise sénégalaise ou non? Ce sont ces entreprises principalement qui interviennent, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai que la croissance prise globalement ne se mange pas. Mais dans le monde rural aujourd'hui, les Sénégalais sont mieux éclairés. Les Sénégalais vivent mieux parce que simplement le pouvoir d'achat a été également augmenté. Le fait de baisser les impôts sur les revenus, c'est une hausse, quelque part, du pouvoir d'achat des Sénégalais.
Alors, je vous propose...
Je peux donner énormément d'indicateurs.
Oui, alors je vous propose justement que ces indicateurs, vous les gardiez le temps du journal et on revient dans 10 minutes. On va retrouver la rédaction à Paris et on poursuit évidemment ce débat avec le public ici à l'Université des Savoir-Faire à Dakar. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.